Les mystères du Dolph par Anne Radcliffe. Chapitre 20. Revenons maintenant à Valancourt. On se souvient qu'il était resté à Toulouse depuis le départ d'Émilie, malheureux et désolé. Chaque jour, il comptait s'éloigner et n'accomplissait point cette résolution. Quitter un pays plein du souvenir d'Émilie lui semblait trop pénible. Il avait su gagner un domestique chargé d'entretenir le château de Madame Montoni. Il pouvait donc visiter les jardins et s'y promener des heures entières, avec une mélancolie qui n'était même pas sans douceur. Il revenait sans cesse vers la terrasse et le pavillon, où la veille de son départ il avait pris congé de la triste Émilie. Peu de temps après son arrivée à la maison de son frère, il reçut l'ordre de rejoindre son corps et de se rendre à Paris. Une scène de plaisir et de nouveauté dont il avait à peine l'idée s'ouvrit à lui dans ce séjour. Mais le plaisir dégoûta, et le monde fatigua d'abord un esprit malade comme le sien. Il devint bientôt l'objet des railleries de ses camarades, et dès qu'il avait un moment, il se retirait seul pour s'occuper d'Émilie. Peu à peu, les riantes sociétés dans lesquelles il se trouvait nécessairement occupèrent son attention, sans toutefois l'intéresser bien vivement. Mais l'habitude de la douleur lui devint moins familière. Il cessa même de la regarder comme un devoir de son amour. Parmi ses camarades, plusieurs joignaient à toute la gaieté française ses qualités séduisantes, qui souvent prêtent du charme aux traits du vice. Les manières réservées et réfléchies de Valancourt étaient pour ces jeunes gens une sorte de censure. Ils l'en raillaient en sa présence, complotaient contre lui quand il était absent, se glorifiaient dans la pensée de l'amener à les imiter et se flattaient d'y parvenir. Valancourt, étranger aux projets et aux intrigues de ce genre, ne pouvait se mettre en garde contre cette séduction. Peu accoutumé au sarcasme, il ne pouvait en endurer le ridicule. Il s'en fâchait, et l'on riait encore plus. Pour échapper à de pareilles scènes, il s'enferma dans la solitude, et l'image d'Émilie vint y ranimer les angoisses de son amour et de son désespoir. Il voulut reprendre les études qui avaient charmé ses premières années, mais son esprit n'avait pas la tranquillité nécessaire pour en jouir. Cherchant à s'oublier, cherchant à dissiper le chagrin, l'inquiétude qu'une même idée lui causait, il quitta de nouveau la solitude et se rejeta dans le tourbillon. Ainsi s'écoulèrent plusieurs semaines. Le temps adoucit sa peine. L'habitude fortifia son goût pour les amusements. Tout ce qui l'entourait semblait refaire absolument son caractère. Sa figure, ses manières le firent bientôt accueillir. En peu de temps, il devint à la mode et fréquenta les brillantes sociétés. La comtesse Lacleur, femme d'une beauté séduisante, tenait alors des assemblées. Elle n'était plus dans son printemps, mais son esprit prolongeait son triomphe. Ceux qu'enchantaient ses grâces parlaient avec enthousiasme de ses talents. Les admirateurs de ses talents trouvaient sa personne accomplie. Son imagination pourtant n'était que plaisante, et son esprit plutôt brillant que juste. On jouait gros jeu chez la comtesse. Elle paraissait vouloir qu'on le modérât, et l'encourageait secrètement. Il était reconnu que les profits du jeu soutenaient sa maison. Le frère de Valancourt, qui résidait avec sa famille en Gascogne, s'était contenté de l'adresser à Paris à quelques-uns de ses parents. Tous étaient des gens distingués, mais leurs attentions pourtant ne s'étendirent point à des preuves réelles d'intérêt. Trop occupé de leur ambition pour suivre sa conduite, il fut livré sans guide à tous les dangers de Paris, avec des passions ardentes, avec un caractère ouvert et franc. Émilie, dont la présence lui préservait, en rappelant son cœur à un objet digne de lui, Émilie était absente. C'était même pour échapper au regret de l'avoir perdue qu'il poursuivait des distractions frivoles et des plaisirs qui l'étourdissaient. Il allait aussi très souvent chez une marquise de Champfort, jeune veuve assez jolie, fort gaie, très artificieuse et très intrigante. Assez adroite pour jeter un voile sur les défauts de son caractère, elle recevait encore quelques gens distingués. Valancourt y fut introduit par deux de ses camarades. Il avait alors si bien perdu ses premiers ridicules qu'il était disposé à en rire le premier. L'image d'Émilie n'était pourtant pas bannie de son cœur, mais elle n'était plus l'ami, le conseil qui le sauvait de lui-même. et quand il y revenait, elle paraissait prendre un air de reproche, tendre à la vérité, mais dont son âme était froissée. Tel était l'état de Valancourt pendant qu'Émilie souffrait à Venise les persécutions de Morano et l'injuste oppression de Montoni.